À la une, tension maximale au Proche-Orient, alors qu'Israël a annoncé la mort du chef du Hezbollah libanais lors de frappes aériennes menées sur Beyrouth. Un risque d'embrasement du conflit, des consignes données aussi par le ministre de l'Intérieur en métropole à l'approche du 7 octobre qui marquera le premier anniversaire de l'attaque du Hamas sur l'État hébreu. Dans le Pacifique, de nouvelles réactions après le tir d'un missile balistique chinois. Le président fidjien a appelé à la fin des manœuvres militaires dans la région. Le sénateur polynésien Teva Rovrich interpelle l'État français. En Calédonie, une soirée pétale de rose en la chapelle Sainte-Thérèse du Vallon d'Or. L'occasion de faire part de ses vœux d'espérance pour les fidèles du Mont-d'Or Sud. Des visites guidées organisées au musée de la Seconde Guerre mondiale ce samedi pour découvrir ou redécouvrir une page d'histoire calédonienne. Le sport du rugby avec la quatrième journée du top 14 et la nouvelle déroute de Clermont à Perpignan. Christophe Urios ne décolère pas. Et en Calédonie, du tennis de table avec les championnats de double qui se disputaient hier à la salle Jean Noyant. Une reprise pour les compétiteurs après plus d'un mois d'attente. Bonjour et soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. À la une de l'actualité internationale, le Proche-Orient sur le point de basculer vers une guerre totale. Israël a officiellement confirmé la nuit dernière la mort d'Hassan Nasrallah. Il était le chef du Hezbollah libanais depuis 1992. Il a donc été tué au cours de frappes aériennes menées sur Beyrouth. Une source proche du Hezbollah a indiqué que 7 immeubles ont été totalement détruit par ses frappes aériennes sur le fief du mouvement chiite. En ce moment même, Israël poursuit ses raids sur le Liban. 140 positions du Hezbollah auraient été visées ces dernières heures, d'après Tzahal. Wilfried De Villers est l'envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv.
Le principal, c'est de maintenir la pression sur le Hezbollah et de poursuivre la destruction de ses infrastructures militaires, de ses caches d'armes également. Daniel Agari, porte-parole de l'armée.
Ce n'est pas encore terminé. Le Hezbollah a encore des capacités. Aujourd'hui encore, nos pilotes frappent les infrastructures terroristes du Hezbollah dans tout le Liban. Il s'agit de capacités stratégiques que l'organisation a développées au fil des ans grâce au financement et au conseil de l'Iran.
Il y a une demi-heure à peine, un entrepôt tout proche de l'aéroport de Beyrouth a été détruit. Dans le sud du pays, des caches d'armes, des rampes de lancement de roquettes ont également été visées. Et puis Tzahal poursuit aussi ses frappes ciblées comme celle qui a tué Hassan Nasrallah hier. Tout à l'heure, un nouveau bombardement dans la banlieue sud de la capitale libanaise, bastion du Hezbollah, a tué Khalil Yassine, responsable des renseignements du mouvement chiite. Dans la foulée, l'armée israélienne a annoncé avoir éliminé la plupart des hauts dirigeants du groupe. Enfin, côté israélien, le Hezbollah a tiré plusieurs salves de roquettes cet après-midi dans le nord d'Israël, la plupart interceptées par le dôme de fer. Dans le centre, c'est dans la région de Tel Aviv que les alarmes ont retenti tout à l'heure après le tir d'un missile balistique depuis le Yémen, intercepté lui aussi, de premières représailles à la mort d'Hassan Nasrallah.
Wilfried De Villers, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv. La mort du chef du mouvement chiite libanais est un coup dur pour le Hezbollah qui a d'ores et déjà promis une vengeance envers l'État hébreu. En revanche, beaucoup de Libanais se réjouissent de sa disparition. Antoine Bienvaux d'Europe 1.
Si le Hezbollah est très implanté dans la vie politique du Liban, de nombreux habitants désapprouvent totalement ses actions. Une large partie de la population tient le groupe terroriste pour responsable de la crise actuelle au Liban, comme l'explique Fabrice Balanche, maître de conférence en géographie à l'université Lyon 2 et spécialiste du Moyen-Orient.
Les Libanais savent que le Hezbollah les entraîne dans un conflit avec Israël, un conflit destructeur qui mine le Liban, qui le plonge dans la crise économique, dans le chaos. Et le Hezbollah est grandement responsable de cette situation.
A priori, la mort d'Hassan Nasrallah est donc accueillie favorablement par de nombreux Libanais. Pourtant, depuis hier, les scènes de réjouissance sont rares, voire inexistantes dans les rues du pays. Une réserve qui, selon Fabrice Balanche, montre la crainte des Libanais vis-à-vis du mouvement terroriste.
Nasrallah, c'était le dieu vivant. Tous ceux qui critiquaient Nasrallah avaient des problèmes. Donc les Libanais sont prudents parce qu'ils ont peur que le Hezbollah se venge sur ceux qu'ils considèrent comme des traîtres liés à Israël, à l'Occident, en premier lieu les chrétiens. Et je sais que beaucoup se réjouissent de la mort de Nasrallah, bien entendu, mais ils n'osent pas le dire publiquement.
Une prudence donc qui règne au Liban alors que le pays annonce ce soir 3 jours de deuil national en hommage à Hassan Nasrallah.
Antoine Bienvaux d'Europe 1. Et parmi les réactions à l'international, la vice-présidente américaine et candidate à la prochaine élection présidentielle aux États-Unis, Kamala Harris, Hamas. Elle a déclaré qu'Hassan Nasrallah était un terroriste avec du sang américain sur les mains. La France s'est dit opposée à toute opération terrestre d'Israël au Liban. Michel Barnier, le Premier ministre, a qualifié d'extrêmement grave la situation. Et puis selon l'ONU, plus de 50 000 personnes ont déjà fui le Liban en direction de la Syrie depuis le début des frappes israéliennes. Les compagnies aériennes européennes ont déjà recommandé d'éviter l'espace aérien du Liban et d'Israël. À la une de l'actualité nationale, la précaution de mise également sur le sol français. La crainte de voir les tensions au Proche-Orient impacter la métropole est réelle. Par ailleurs, nous approchons de l'anniversaire des attaques du Hamas sur Israël, le 7 octobre 2023. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a donné des consignes.
Nous arrivons à quelques jours de l'anniversaire du 7 octobre. Et parallèlement, il y a eu des manifestations, il y en aura encore ce week-end, et je ne veux pas que ces manifestations dégénèrent. J'ai recommandé à tous les préfets de France, en métropole et dans nos territoires d'outre-mer, la plus extrême fermeté. Il est hors de question qu'il y ait un dérapage. Nous devons protéger nos compatriotes juives. Je m'y attacherai. Je serai d'ailleurs demain à leur côté parce que c'est la célébration d'un triste anniversaire et c'est la journée pour qui évoque notamment la Shoah. Je serai à leur côté. J'ai donc demandé instamment à chaque préfet de la République française de donner toute la protection qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de ses compatriotes.
Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui a demandé au préfet de police une vigilance particulière autour des rassemblements qui pourraient avoir lieu.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Ouvéa, c'est le 103.5.
À la une de l'actualité dans le Pacifique, l'essai de missile balistique intercontinental chinois mercredi dernier fait couler beaucoup d'encre dans la région, Isabelle Pelletier.
Oui, ce missile balistique intercontinental transportant une ogive factice d'entraînement lancée dans l'océan Pacifique représentait pour la Chine le premier test de ce type depuis les années 1980 et Pékin en avait averti les autorités françaises selon le Haut Commissariat de la République en Polynésie. Problème, ce dernier n'en aurait pas informé le président polynésien Moetai Brotherson qui s'en est ému au travers d'un communiqué indiquant, je cite, que ce missile était tombé non loin de la zone économique exclusive du côté des Marquises. De son côté, le sénateur polynésien Teva Rofritsch a adressé un courrier au président de la République, au Premier ministre, au ministre de la Défense et à celui des Outre-mer pour dénoncer, je cite, cette démonstration de la Chine dans notre océan et demander à l'État une réaction forte à ce qu'il considère comme, je cite encore, une manœuvre militaire intrusive. Pardon. La zone polynésienne du Pacifique avait jusqu'ici été épargnée par les manœuvres militaires des États-Unis ou de la Chine. Ce tir a suscité des protestations de la part d'autres pays comme le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ou encore les Fidji, alors que la région est traversée par des enjeux géostratégiques de grande ampleur. Il n'y a pour l'instant pas de réponse officielle de la part de Paris.
RRB 7h10.
L'actualité en Calédonie au chapitre des faits divers. De nouvelles exactions auraient été signalées la nuit dernière sur la commune de Dimbéa. Des départs d'incendies à proximité du cinéma MK2. Par ailleurs, au Mont d'Or, dans la nuit de vendredi à samedi, l'un des locales de l'école de la briqueterie à Ploum a été la cible d'une intrusion. Un ou plusieurs individus sont entrés par effraction dans le bureau de la directrice. Des dégâts sont à déplorer. En bref, toujours, notez qu'à la tribu de Saint-Louis, les deux hommes âgés de 29 ans et 30 ans tués le 19 septembre dernier dans des tirs de riposte du GIGN doivent être enterrés dans la journée. Il est 7h passé de 11 minutes. Une page de publicité avant de voir ce qui fait l'essentiel de l'actualité en Calédonie et la soirée Pétale de Rose organisée hier en la chapelle Sainte-Thérèse du Vallon d'Or. A tout de suite.
Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, Cheyenne raconte une histoire aux tout-petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dom, la boutique des tout-petits. Petit Dom, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dom, on n'hésite plus, on y va.
À vos agendas. Ce week-end, marché de Boulary au Mont d'Or avec au programme. Dimanche 29 septembre, marché Broussard de 6h à 12h. Vous trouverez toutes les saveurs du terroir calédonien, de l'artisanat culinaire, mais aussi une animation musicale avec Timeless et des jeux pour les enfants. Venez nombreux ce week-end au marché de Boulary.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal, Michael Geneski.
L'actualité en Calédonie au chapitre religieux. Hier soir était célébrée une soirée pétale de rose en la chapelle Sainte-Thérèse du Vallon d'Or. L'occasion pour les fidèles d'écrire une lettre à Sainte-Thérèse et lui envoyer leurs vœux pour l'année à venir, Charlotte Coulson.
Une fois par an, les paroissiens de Saint-Louis se réunissent au mois d'octobre pour célébrer le mois de naissance de la Sainte-Thérèse. Des prières et des chants animaient la soirée, débutée hier à 18h. Puis est venu le temps de l'écriture, puisque les fidèles rédigent une lettre dans laquelle ils expriment leurs vœux pour l'année à venir. Tiffany Tarayaou fait partie de la paroisse de Saint-Louis et était présente hier soir.
J'écris des lettres soit avant la soirée ou pendant la soirée. Hein. Pendant la soirée, ils sont plus inspirés parce qu'on les aide à écrire les lettres avec des chants et des poèmes de la petite Thérèse. Ils écrivent leurs lettres et la déposent dans une boîte aux lettres qui est mise à disposition. Et pendant un an, tous les mois, on va prier pour ces lettres avant les prochaines pétales de rose, donc en 2025. En septembre 2025, leurs mêmes lettres seront renvoyées chez eux. Voilà, et c'est là en fait où ils découvriront les grâces, les exaucements en fait de la petite Thérèse, parce qu'en un an, on ne se souvient plus de ce que nous avons écrit. Et donc, ils redécouvrent ce qu'ils ont écrit sur leurs lettres. De là, ils verront les grâces reçues.
Une célébration qui prenait tout son sens, particulièrement dans le contexte que nous traversons. Un moment fort partagé à la chapelle, de quoi redonner de l'espoir à chacun pour les temps qui viennent.
Il y avait une ferveur, c'était attendu, les gens en ont besoin. Surtout en ce moment, c'était un super moment. Il y a beaucoup d'espoir, hein, beaucoup d'envie d'avancer, surtout, et de passer vraiment à autre chose, et puis qu'on puisse retrouver la paix. Après, au niveau des lettres, je ne sais pas ce qu'ils mettent à l'intérieur, parce qu'on ne les ouvre pas. C'est vraiment entre eux et la petite Thérèse et Jésus. Mais ils étaient apaisés, il y avait un moment d'apaisement, ils avaient besoin. Il y a vraiment besoin de ce genre de moment.
Et les fidèles pourront redécouvrir leurs vœux l'année prochaine, en septembre 2025.
Et notez que ce dimanche 29 septembre, nous sommes le jour de la Saint-Michel. Ce jour célèbre les trois archanges, Michel, Raphaël et Gabriel. Saint-Michel qui est, je le rappelle, le saint patron des parachutistes et de l'armée de l'air.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Boulou Paris, Saraméa, La Foy, Moindou, Farino, c'est le sang.
À Nouméa, une page d'histoire de la Nouvelle-Calédonie ce samedi. Le musée de la Seconde Guerre mondiale recevait le public autour de visites guidées, Charlotte.
Quelle a été la position de la Nouvelle-Calédonie dans ce conflit, ou encore que reste-t-il de la présence américaine sur les territoires entre 1942 et 1946 ? De quoi élargir sa culture générale, voire d'en apprendre plus sur le passé de ses ancêtres ? Les curieux étaient au rendez-vous hier matin.
Par rapport à l'Europe, en fait, ici, on découvre vraiment une facette de la Deuxième Guerre mondiale sur le Pacifique. Moi, je connaissais pas du tout. C'est une facette, en fait, qu'on nous montre pas en Europe.
Quand on voit les kilomètres qu'ils ont fait pour venir se battre jusqu'en Europe, c'est quand même impressionnant. Lâcher tout et puis partir sur plusieurs années, faut le vouloir.
C'était l'occasion que les enfants viennent avec nous et qu'on redécouvre ce musée qu'on connaît déjà, mais avec un guide. Prendre le temps, en fait, se laisser guider et puis avoir une information qu'on va pas forcément prendre toujours dans le musée.
C'est pour ça qu'on a amené les enfants, parce que l'histoire de leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents est très dépendante de la présence américaine, notamment pendant Guerre mondiale. Donc c'était pour nous l'occasion de leur présenter cette histoire qu'ils connaissent peu ou pas assez.
En quatrième, on n'a toujours pas travaillé la Seconde Guerre mondiale et savoir le passé de notre histoire, bah, c'est bien aussi, et de savoir comment elle a évolué, la Calédonie.
Et la prochaine visite guidée organisée par la ville de Nouméa se déroulera au musée de la France australe le 3 octobre prochain.
Ce dimanche, de nombreux marchés sont prévus sur le territoire. À Farino tout d'abord, le marché de Mamie propose ce matin sa troisième fête du jardin. Jusqu'à midi, des pépiniéristes ainsi que des particuliers proposent des plantes vertes, des arbres fruitiers, divers plants de légumes. Sont également présents les traditionnels stands de marché de Mamie avec tous les produits locaux. Écoutez, Gisèle Narly, responsable du marché de Farino.
Avec le beau temps et la Niña qui arrive, donc c'est le moment de planter, de faire des boutures. Donc ce week-end, nous allons faire une exposition vente de beaucoup de plantes, de très belles plantes vertes. De bougainvilliers, en ce moment, ils sont à l'honneur parce qu'ils sont tout en fleurs, ils sont très beaux. Les lys, les amaryllis, enfin voilà, c'est une belle saison là pour venir chiner un peu et puis améliorer nos jardins. Lorsque nous faisons une fête du jardin, il y a toujours des stands du marché parce qu'il y a les gens qui font les deux. Donc des stands du marché de Farino avec les produits du terroir habituels, comme ça on ne se dépasse pas pour rien. Profitez pour faire votre marché, il y a pas mal de légumes en ce moment, il y a pas mal de produits vivriers. On profite pour faire une pierre à plusieurs coups.
Ghislaine Harlier, responsable du marché de Farinome. Encore des rendez-vous. Le Monde d'Or propose depuis 6h et jusqu'à midi son marché Broussard à Boulary. Vous pouvez également retrouver un marché de produits locaux au 7e kilomètre à Nouméa sur le parking de Barbecue Store de 7h à 13h. Enfin, toujours à Nouméa au centre culturel Tibaou. Comme tous les derniers dimanches du mois, ne manquez pas le marché des femmes rurales jusqu'à midi avec de l'artisanat ainsi que des produits locaux venus de Brousse et des îles. Il est 7h passé de 17 minutes. Une dernière page de publicité avant de voir tout le sport.
Jusqu'au vendredi 18 octobre, gagnez un séjour au Sheraton Deva. Un cadeau d'une valeur de 153 000 francs. Logez 3 nuits en bungalow traditionnel, petit déjeuner inclus pour 2 personnes. Envoyez chance au 3146. Tirage au sort vendredi 18 octobre à 14h, 148 francs le SMS. Profitez des vacances scolaires pour vous détendre au Sheraton Deva. Le resort vous accueille 7 jours sur 7 dans ses suites avec cuisine équipée à tout petit prix. Toutes les infos et actus sur les pages Facebook et Insta de l'hôtel. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, c'est du sport, Michael Gineski.
Et à la une de l'actualité sportive du rugby, avec la quatrième journée du top 14. Et tout d'abord, Perpignan qui a étrié Clermont la nuit dernière sur le score de 33-3. Après cette déroute, le manager des Clermontois, Christophe Urios, n'y va pas par quatre chemins. Écoutez.
Aujourd'hui, on a pris une branlée, donc quand tu prends une branlée, tu la fermes, tu te remets au travail dès mardi et tu prépares le match après.
Les autres résultats du jour pour le compte de cette quatrième journée du championnat de France. Bayonne a battu Montpellier sur le fil, 28-27. Victoire serrée également de Lyon sur Castres, 40-38. La Rochelle a infligé sa deuxième défaite d'affilée au Racing 92. Victoire du Stade Rochelais, 17-16. Enfin, Toulon l'a emporté très largement sur le promu Vannes, 54-10. En ce moment même, la section paloise fait face au Stade français. Du rugby toujours avec le tournoi des nations de l'hémisphère sud remporté par les Springboks. Les Sud-Africains se sont imposés sur les Pumas argentins 48-7. De leur côté, les All Blacks ont battu hier soir les Wallabies australiens 33-13. La Nouvelle-Zélande finit donc deuxième du classement devant l'Argentine et l'Australie dernière de ce rugby championship. Le football, la sixième journée de Ligue 1 et pas de vainqueur entre Lens et Nice qui se sont quittés sur un nul 0-0. En revanche, Lille a décroché une large victoire sur Le Havre, 3-0. Les Lillois reviennent à la quatrième place du classement. En ce moment même, Monaco affronte Montpellier. Le score était de 1-0 à la mi-temps. Les Monégasques ont l'obligation de s'imposer pour rester au coude à coude avec Paris en tête du classement. L'actualité des sports mécaniques à présent. Et en MotoGP, les pilotes préparent le Grand Prix d'Indonésie. Le leader du championnat du monde, Jorge Martin, a réalisé hier soir le meilleur temps des qualifications. Il s'élancera en pole position devant l'Italien Marco Bezzecchi. Les deux Français, Fabio Quartararo sur Yamaha et Joan Zarco du team Honda LCR, ont réalisé un beau tir groupé. Ils partiront respectivement des 6e et 7e positions sur la grille de départ. Francesco Bagnaia a lui de son côté remporté par la suite la Sprint Race. Une Sprint Race où Joan Zarco s'est classé 8e. Une grande satisfaction pour le pilote tricolore.
Très content. Les points là de la sprint, ils font tellement plaisir. Après ce rythme maintenu en course, j'étais content que ça se termine. Les tours ont passé vite, mais en fait, quand on s'est mis à rouler en 30.4, 30.5, 30.6, j'étais au max du max.
Et l'autre Français, Fabio Quartararo, a terminé 12e de cette Sprint Race, le Grand Prix d'Indonésie. À suivre ce soir, le départ sera donné à 18h, heure de Nouméa. Et puis en rallye, le championnat du monde WRC fait étape au Chili et Sébastien Ogier a dû abandonner. Il avait déjà perdu près de 2 minutes et la tête du classement pour crevaison. Il est une nouvelle fois parti à la faute et a donc dû jeter l'éponge. C'est le Gallois Elfyn Evans qui est désormais leader de cette épreuve.
Radio Rythme Bleu. Les bonnes fréquences. À Koumac, c'est le 99.
Le sport en Calédonie, c'était l'heure de la reprise ce samedi pour le tennis de table. Les pongistes faisaient leur retour à la compétition. Après plusieurs mois d'interruption, la Ligue organisait les championnats de Calédonie de double. Les participants se sont retrouvés pour les tournois en double dames, double messieurs et double mixte. Une reprise qui a ravi notamment les gagnantes du tournoi féminin, Vanina Santino et Léa Laivan.
C'est la première vraie compète depuis les événements. Donc il faut se remettre un petit peu dans le mood, mais bon, on adore toujours la compète, donc on joue toujours ensemble en compétition, donc ça passe. Belle surprise et c'est fatigant. Hein. Faut vraiment qu'on se remette dans le bain parce que là, c'était fatigant.
Et face à elle, le duo finaliste n'a pas démérité pour cette compétition de reprise avec la toute jeune Yvonne Nasreddin associée à Maëlys Giray, déjà lauréate du tournoi en double mixte.
Ça fait du bien, puis on était agréablement surpris par le nombre de participants. Il y avait quand même 32 paires inscrites, donc je crois que c'est pas mal. Même Koumak a réussi à descendre, quasiment tous les clubs étaient présents. Je pense que tout le monde avait un peu envie de reprendre la raquette et de taper la balle, même si les entraînements avaient plus ou moins repris. Et donc c'est la première compétition officielle de la Ligue depuis la qualification olympique, où le lendemain, on a mis un terme un petit peu forcé à notre pratique. On avait beaucoup de jeunes, c'est pour ça que les meilleurs paires classées avec des points inférieurs à 1200, ça veut dire des non classés, ont également un titre. Donc on a un titre dans les trois tableaux, principalement des jeunes, et on a également un titre chez les paras, puisqu'il y avait deux paires de paras tennis de table avec Alain Barbu et Nice Monnier. Donc je crois que dans toutes les catégories, tout le monde a pu y trouver son bonheur.
Et vous l'aurez rectifié de vous-même, évidemment. Hein. Il s'agissait cette fois de Patrick Gilman, le président de la Ligue calédonienne de tennis de table, qui faisait le bilan de cette compétition de reprise. Allez, je vous propose tout de même d'écouter le duo finaliste dans le tournoi en double féminin, c'est-à-dire Yvonne Nasreddin et Maëlys Giray.
Oh, c'était top, on s'est bien amusé. C'est la première fois qu'on joue ensemble. Et du coup, aller à la finale, même si on a perdu à la belle, battre les deux filles super fortes, c'était top. C'était un beau match, on s'est régalé.
C'était bien.
Tu as quel âge ?
J'ai 11 ans. Ça fait du bien.
Envie de venir plus souvent en finale et envie de décrocher tous les titres ?
Oui.
Et voilà pour la jeunesse également de retour dans les salles de tennis de table. Notez que Jérémy Day et Jérôme Morisseau se sont imposés dans le tournoi masculin. Jérémy Day qui l'avait emporté aux côtés de Maëlys Giray en double mixte. Du football avec un nouveau match amical pour la sélection calédonienne en vue de la préparation aux éliminatoires du mondial. Les Calédoniens ont fait match nul hier face à Yengensport, 2-2 sur la pelouse du stade Nouma Delhi. L'important dans ce cycle de préparation pour le sélectionneur Yohan Zidaner, c'est de garder un groupe motivé.
Ça porte ses fruits parce que les garçons travaillent vraiment correctement et du coup ça porte ses fruits parce qu'on sent l'équipe monter en puissance. C'était surtout de retrouver un niveau correct sur le plan athlétique. C'est chose faite puisqu'on travaille depuis début juillet et on sent que sur ce plan-là, ça porte ses fruits. Mais il y avait aussi d'autres aspects, notamment cette unité, cette cohésion à retrouver. Et on sent que là aussi, on est sur la bonne voie.
La sélection calédonienne qui s'était déjà imposée sur Tiga et Magenta ainsi que la sélection des moins de 19 ans. Il est 7h passé de 24 minutes, l'heure de votre météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Une météo que vous nous détaillez, Nicolas. Bonjour.
Bonjour, Michael. Alors, ce matin, des nuages élevés voileront parfois le soleil. Sur l'ouest et le nord, le temps sera sec. Ailleurs, quelques nuages bas circuleront et s'accompagneront d'averses éparses. Le vent de secteur nord-est soufflera entre 10 et 15 nœuds, localement 15 à 20 nœuds sur les extrémités de la Grande Terre. Sur l'ouest, il sera encore localement accéléré dans les vallées en début de journée. Cet après-midi, les nuages élevés s'apaisseront. Sur la façade est, la chaîne et aux loyautés, les nuages bas se maintiendront et les averses deviendront plus fréquentes. Sur l'ouest, le vent sera de secteur sud-est autour de 10 nœuds. Ailleurs, le vent sera orienté est à nord-est entre 10 et 15 nœuds, localement 15 à 20 nœuds sur la pointe sud de l'île des Pins et le sud des Loyautés. Les températures maximales évolueront entre 25 et 28 degrés en général et localement 29 degrés, ce sera sur l'ouest.